J'appelle à la barre Jean-Sébastien Mac. Donc Jean-Sébastien, tu es ingénieur d'études à l'ITEM, donc Institut des textes et manuscrits modernes. Tu es spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola, du roman naturaliste et de ses rapports avec la musique, la photographie et le cinéma. Au sein de l'ITEM, tu es également codicologue, ce qui t'amène à travailler sur l'analyse des papiers anciens ainsi que des filigranes dans les manuscrits d'écrivains, de scientifiques ou d'artistes. Et aujourd'hui, tu nous présentes la correspondance d'Émile Zola.
Voilà, merci beaucoup Léa pour cette présentation. Merci pour votre invitation à parler aujourd'hui à Lyon de ces projets effectivement d'édition numérique de la correspondance de Zola, correspondance active et correspondance passive. Alors effectivement, le centre Zola à l'ITEM, eh bien, est le fruit d'une histoire, hein, d'une histoire ancienne déjà, puisque le centre a été fondé par Henri Mitran dans les années 70, pardon, autour de l'édition de la correspondance de Zola, une édition papier qui s'est faite en 10 volumes entre 1975 et 1990. Donc nous sommes le fruit de cette histoire et aussi le fruit d'une histoire numérique, puisque les premiers projets numériques de l'équipe Zola, au sens large, ça remonte eh bien, à la fin des années 90. Voilà. À l'époque, on ne parlait pas encore, je pense, d'humanité numérique. On en faisait un petit peu sans le savoir. Donc voilà ce préalable pour vous dire et vous avertir de ce que vous allez voir maintenant, que eh bien, les projets que l'on a mis en place, les méthodologies que nous avons choisies, eh bien, sont le fruit de cette histoire. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui sont présents, merci à vous. Vous allez croire que les chercheurs ne parlent que d'argent, mais ça a été un petit peu aussi le cas pour notre équipe, c'est qu'au départ, après avoir fait un projet ANR sur les archives numériques entre 2012 et 2016, donc un projet financé, nous voulions faire une édition numérique de la correspondance active de Zola, un projet franco-québécois que nous avions déposé. Nous n'avons pas eu ce projet. Mais nous avons eu un autre projet pour l'édition de la correspondance passive de Zola, des lettres internationales envoyées à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Vous voyez quelque chose de très resserré. Et là, nous avons eu le financement. Et ben donc, nous avons été pragmatiques, nous avons changé notre fusil d'épaule et nous avons commencé par ce premier projet que je vais vous présenter. Et ensuite, j'irai vous montrer ce que nous faisons pour la correspondance active. Donc effectivement, ces correspondances passives de Zola, c'est à peu près 20 000 lettres de personnes connues, mais aussi de nombreux inconnus, hein, ce qu'on a pu appeler parfois les amis inconnus d'Émile Zola, hein, ces anonymes qui écrivent à l'écrivain, notamment à partir de l'Assommoir, et puis quand les grands auront paresse, Germinal, La Bête humaine, La débâcle, hein, et bien sûr au moment de l'affaire Dreyfus. Nous avons fait ce choix d'une époque resserrée parce qu'effectivement, il n'était pas possible, dans un temps assez bref, de 2 à 3 ans, de publier les 20 000 lettres de la correspondance passive. Et donc, on a voulu resserrer un petit peu le corpus. Et ça nous faisait à peu près 3 000 lettres à numériser et à mettre en ligne, de manière à montrer finalement comment l'affaire Dreyfus eh bien, est ressentie et accueillie dans l'ensemble des pays du monde et montrer finalement la circulation médiatique de cette affaire, hein, puisqu'on se rend compte qu'un événement qui se passe à Paris un jour, eh bien, le lendemain, il se répercute dans l'ensemble de la presse mondiale avec des réactions immédiates hein, de personnes qui écrivent à Émile Zola. L'idée était également de fournir très rapidement à l'équipe de chercheurs du Centre Zola. Je remercie Isabelle Schaffner, d'ailleurs, de sa présence, qui est une membre éminente de notre équipe. Donc, de fournir à ces chercheurs un corpus de travail en vue d'un colloque qui s'est tenu au Collège de France et à l'ENS en mai 2019. Donc, avoir tout de suite un corpus de travail pour pouvoir étudier ces lettres selon différents axes. Au total, nous sommes arrivés à peu près à 50 pays qui sont concernés. Et nous avons classé eh bien, ces lettres dans 85 sous-collections, puisque pour chaque pays, il peut y avoir des lettres dans la langue du pays, mais aussi des lettres en français. Donc nous avons classé les lettres par pays, puis par langue. Nous avons utilisé la plateforme IMAN, créé par Richard Walter à l'époque à l'ITEM, et maintenant Iman est au laboratoire Talim de la Sorbonne Nouvelle. Donc Iman pour édition de manuscrits et d'archives numérisées, qui nous permettait très facilement, soit en créant directement les notices, soit par l'import de fichiers Excel, eh bien, de pouvoir créer les métadonnées descriptives de ces lettres. Et également ce qu'on appelle les métadonnées du type de contenu, ça veut dire des métadonnées qui sont vraiment liées au type de contenu correspondance, hein, donc des éléments descriptifs qui sont spécifiques à la correspondance. Et donc ça a donné ce genre de notice avec la lettre numérisée et les différentes informations descriptives sans transcription ni traduction. Simplement avec une description courte, des mots-clés et enfin une géolocalisation, donc de manière à savoir d'où provient la lettre. Pour aller, comme je vous l'avais dit, assez vite, on a commencé par numériser d'après les photocopies que nous possédons au centre Zola, hein, ce qui nous permettait de numériser en masse ces lettres qui sont déjà classées par pays. J'en prends une ici, qui est une lettre qui vient d'Espagne, de Barcelone. C'est un garçon qui écrit à Zola alors qu'il est menacé d'être condamné à mort. Il est en prison, en fait. Voilà. Donc son combat de cet étudiant barcelonais, en fait, fait écho au combat de Zola pour l'affaire Dreyfus. Alors, j'avance. Mais on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on perdait la matérialité, finalement, de la lettre. Hein, parce que, pour nous, l'idée aussi d'une édition numérique, c'était de pouvoir rendre la matérialité de la lettre. On s'est rendu compte que dans les éditions papier de correspondance, souvent, la matérialité disparaissait. Parfois, je l'ai vu, je pense, pour Montesquieu, il y a une description codicologique, mais qui est assez courte. C'est pareil pour l'édition papier de la correspondance de Zola. Donc l'idée ici, effectivement, c'était qu'il fallait laisser tomber, finalement, les photocopies pour aller aux originaux, conservés par les ayants droit de la famille d'Émile Zola. Notamment aussi, vous voyez, c'est que très souvent, les lettres sont accompagnées eh bien, d'articles de presse, de photographies, de fleurs séchées. Enfin, il y a plein de petits objets autour de la lettre dont nous avions envie aussi de rendre compte dans cette édition numérique. Voilà comment sont conservées ces lettres, hein, dans des enveloppes Kraft, dans une bibliothèque d'une petite ville de l'Est de la France. Ces lettres, pour tout vous dire, elles ont été envoyées donc en masse à Zola, qui ne les a jamais lues, puisqu'il en recevait plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines par jour, qu'il était accaparé par ses procès suite à J'accuse, et qu'il est parti ensuite 10 mois en exil en Angleterre, donc il ne recevait pas toute sa correspondance. Et donc ces lettres ont été classées, après sa mort, par son fils Jacques-Émile Zola. Mais elle n'avait pas été ouverte, finalement, depuis cette époque. Et donc, je vous parle aussi un petit peu de terrain, hein, ce que c'est que la recherche de terrain. C'est que j'ai passé 3 étés dans la famille, pas tout l'été, je vous rassure, j'ai aussi pris des vacances, mais à numériser ces lettres et à affiner ma méthodologie pour numériser ces lettres. Tout à l'heure, vous disiez que vous preniez votre appareil photo ou votre petit numériseur A4. Moi, j'ai commencé par ça. Mais avec mon scanner A4, eh bien, j'arrivais à faire 20 lettres par heure. Je n'avais que 3 jours à passer, ce n'était pas beaucoup. La deuxième année, j'ai affiné ma méthodologie. J'ai pris un ancien appareil d'agrandissement de photographie argentique, sur lequel j'avais posé un appareil photographique numérique, de manière à pouvoir prendre la photo par le haut. Là, j'arrivais à aller un peu plus vite, mais ce n'était pas suffisant. Je suis tombé amoureux de la tente ScanTent de Transcribus. Voilà, donc Transcribus, hein, qui est cette initiative d'HTR, en fait, hein, de reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite, qui a créé cette ScanTent. Alors, c'est vraiment 3 bouts de ficelle, mais en fait, c'est une ScanTent qui me permet d'avoir une lumière homogène, alors que je suis dans un lieu où les conditions de numérisation ne sont pas forcément idéales, et de pouvoir, en fait, avec le smartphone, de pouvoir numériser depuis le haut, et avec surtout l'application qui va avec, DocScan, qui reconnaît en fait la tonte de page. Ce qui veut dire qu'une fois que je lance ma numérisation, je n'ai plus qu'à tourner les pages et la photographie se prend automatiquement. Voilà. Et au lieu de faire 20 lettres à l'heure, j'en faisais à peu près 150. Voilà, hein. Donc, finalement, ce sont aussi ces astuces-là en fait, qui nous ont permis eh bien, d'avancer rapidement dans une numérisation de pas trop mauvaise qualité. Hein. Voilà, c'est pas forcément la meilleure qualité possible, mais au moins c'est une qualité suffisante pour pouvoir travailler et publier. Donc voilà, l'idée, c'était comment ? Oh, à l'époque, c'était gratuit. Voilà. Parce qu'on l'avait en test. Voilà, on n'a jamais payé. Voilà. Mais je pense que maintenant, ça doit être 70 euros, je pense. Voilà. Et ces scatens sont souvent maintenant disponibles dans les bibliothèques universitaires, je sais pas, ou à la BNF aussi, par exemple, en fait. Voilà. Donc, je passe rapidement sur, finalement, le projet plus scientifique, en fait, hein, de cette édition numérique des lettres envoyées à Émile Zola, de pouvoir étudier le réseau des scripteurs qui écrivent à Zola, les thématiques et les contenus de ces lettres, leur support, les annexes envoyées, la langue, le niveau de langue, etc., etc. Ça nous a donné un colloque et un dossier d'articles dans les cahiers naturalistes. Ça nous a permis de serrer quelques types de lettres, notamment les lettres d'enfants, voilà, hein, et de comprendre pourquoi une enfant de 12 ans d'Australie écrit à Émile Zola. Hein, très souvent, les enfants d'ailleurs disent qu'ils n'ont jamais lu Zola, parce que c'est interdit, hein, voilà. Sauf peut-être le rêve, hein, voilà, mais que s'ils n'ont pas lu Zola, en fait, ils sont admiratifs du courage qu'il a eu de défendre le capitaine Dreyfus. L'idée était aussi de pouvoir mettre en relation cette édition avec d'autres corpus similaires, hein, notamment les lettres envoyées à Alfred Dreyfus, qui sont conservées, elles, au musée de Bretagne à Rennes. Ça nous permet également d'avoir une cartographie, hein, de ces correspondants étrangers, hein, de pouvoir entrer dans le corpus directement par un point de géolocalisation, hein, et de permettre eh bien, de comprendre un petit peu cette cartographie des correspondants étrangers de Zola, de voir pourquoi il y a parfois des points de géolocalisation très nombreux dans des zones géographiques parfois un peu surprenantes. J'y reviendrai après. Voilà donc le point de géolocalisation comme entrée dans les données, puisqu'on peut cliquer sur le point qui nous intéresse et avoir accès directement à la fiche mise en ligne. Ça nous a permis aussi de faire émerger des archives que l'on connaissait, mais qu'on n'avait pas forcément vues, hein, notamment ces pétitions d'hommage. Alors, on peut se demander, est-ce que les pétitions d'hommage envoyées à Zola, c'est-à-dire des listes de noms de personnes dans un pays, dans une ville, qui se réunissent pour envoyer plusieurs centaines de signatures en soutien au combat de Zola, est-ce que c'est de la correspondance ? Oui, non, peut-être. Voilà. En tout cas, nous, on a voulu les intégrer parce que ces pétitions sont très nombreuses. Elles font parfois l'objet d'objets très, très travaillés, en fait, avec des aquarelles. Parfois, ces pétitions contiennent aussi des lettres. Voilà. Donc, nous les avons également numérisées et mises en ligne. Et ce qui nous a permis, eh bien, parfois, d'en connaître plus sur l'histoire de ces pétitions. Je vous montre ici celle-ci, les habitants de Salonique, hein, qui rendent hommage à Émile Zola. On connaissait ce document, mais on n'en connaissait pas forcément l'histoire. Eh bien, la mise en ligne et la publication de ce document nous a permis eh bien, qu'un historien de Salonique en fait, nous écrive pour nous donner toute l'histoire de cette pétition, de cet objet, par qui il a été fait, comment il a été fait, à quel moment il a été remis à Zola, etc. etc. Donc ça nous a permis aussi finalement de retirer de l'information, hein, de spécialistes non zoliens. Je vous parlais tout à l'heure de zones géographiques parfois très prolixes à l'égard de Zola, c'est la Chaux-de-Fonds. Je ne sais pas si vous connaissez la Chaux-de-Fonds, c'est un petit village en Suisse, hein, à la frontière française. Et je me posais la question de savoir pourquoi il y avait autant de points de géolocalisation dans cette petite ville de, je sais pas, 4000 habitants à l'époque, de la Chaux-de-Fonds. Pourquoi les habitants de la Chaux-de-Fonds écrivaient autant à Zola ? C'était assez étrange. Et en fait, on s'est rendu compte que la Chaux-de-Fonds est un haut lieu de l'industrie horlogère, en fait, et que eh bien, les artisans horlogers de la Chaux-de-Fonds ont tous écrit à Zola, et ont conçu une montre que vous voyez ici, en fait, avec la signature d'Émile Zola. Et j'ai retrouvé cette montre qui a été, en fait, tout simplement conservée au Musée Carnavalet à Paris. En fait. Voilà. Donc, vous voyez que parfois, on peut aussi avoir eh bien, des retombées un petit peu inattendues et étonnantes dans cette correspondance passive. Et enfin, ça nous permet de faire émerger des correspondances secondaires. Ce n'est pas forcément des lettres à Zola ou de Zola, mais ça peut être des lettres d'amis qui écrivent entre eux à propos de Zola, et aussi une correspondance après la mort de Zola, hein, toutes ces années où, en fait, eh bien, on va célébrer la mémoire de Zola par l'érection d'une statue, par l'entrée de Zola au Panthéon, etc. etc. Hein, tous ces éléments, eh bien, nous les retrouvons dans ces correspondances secondaires d'après la mort de Zola. Je vous mets cet exemple ici, une lettre d'Alfred Bruno, elle est étonnante en fait, parce qu'elle est signée du 29 septembre 1902. C'est le jour de la mort de Zola, en fait. Et en fait, quand Alfred Bruno écrit à Zola, Zola est déjà mort. Voilà. Mais Alfred Bruno ne le sait pas, en fait. Et en plus, il demande des nouvelles de sa santé. Voilà. Et enfin, des découvertes d'archives inconnues, notamment, eh bien, toujours pour rester dans cette tonalité, les registres de condoléances à la mort de Zola, qui là aussi nous permettent en fait, d'avoir des listes de centaines de noms d'inconnus qui signent très souvent avec leur qualité, hein, commerçants, avocats, etc., etc. Donc, ils nous permettent aussi, avec cette correspondance passive, eh bien, d'avoir une sociologie en fait, hein, de ces personnes qui viennent rendre hommage à Zola. Mais au milieu de ces centaines d'anonymes, parfois, on trouve quand même un nom connu comme ici Claude Monet, qui signe comme métier artiste. Voilà. Donc voilà pour la correspondance passive. Là, quand même, un petit scoop, c'est qu'en 2025, nous allons célébrer les 100 ans de la mort d'Alexandrine Zola, qui est finalement une épistolière aussi, très prolixe. Elle n'est pas autrice, mais elle est très importante, bien sûr, dans la vie de Zola et dans la mémoire de Zola, et donc nous avons récemment décidé eh bien, de lui consacrer une journée d'études en 2025 pour ce centenaire, et donc de pouvoir numériser les lettres qu'elle a pu envoyer à Zola, quand notamment Zola était en exil ou quand elle était en voyage en Italie, et de faire un inventaire général de cette correspondance, et de numériser des corpus spécifiques, notamment sa correspondance avec Denise Leblond Zola, la fille d'Émile Zola. Voilà, je vais passer parce que je pense que je passe un peu trop de temps. Voilà. Donc, je rappelle simplement que, puisque nous publions au sein d'Iman, Iman qui est une plateforme d'édition numérique avec des projets de tout type, en fait, mais nous avons actuellement 11 projets de correspondance sur Iman. Et donc, l'idée, c'est au sein d'Iman de pouvoir, d'avoir un groupe de travail qui échange sur nos pratiques d'édition numérique de correspondance. Pour cela, nous avons mis en place un webinaire qui est disponible sur Canal U. Avec Marie Dupont, qui anime avec moi ce groupe de correspondance, nous écrivons un article méthodologique donc, qui est en cours de rédaction. Une journée d'étude est prévue en avril 2024. Et je rappelle aussi le guide méthodologique d'édition numérique de correspondance qui avait été conçu, créé au sein du consortium Cahiers il y a quelques années et qui est toujours disponible sur le site du consortium Cahiers. Enfin, je vais terminer sur la correspondance active de Zola, hein, celle pour laquelle on n'a pas eu les sous. Voilà. Mais ce qui ne nous a pas empêché, malgré tout, d'initier un travail. Vous allez voir que là, la méthodologie, elle est tout à fait différente. Parce que nous partons des 11 volumes papier, déjà donc édités par les éditions du CNRS et les presses universitaires de Montréal. Hein, ce qui correspond à peu près à 4700 lettres. Que nous avons numérisé et ossérisé. Donc, très concrètement, nous avons pris les 11 volumes massicotés, passés dans la machine et avec un OCR. À cela s'ajoute l'édition numérique des lettres inédites, hein, parce que depuis la publication du 11e volume en 2010, on a retrouvé à peu près 400 lettres inédites de Zola, donc on va pouvoir les ajouter dans cette édition. Et nous avons décidé de passer par Iman pour structurer les données et les métadonnées, en fait, mais pour ensuite passer sur un site dédié en WordPress sur le modèle des lettres Van Gogh que l'on vient d'évoquer. Alors ce système a l'avantage que nous obtenons rapidement le texte des lettres avec les annotations qui sont de très bonne qualité Mais il y a un gros travail de mise en forme à faire, notamment parce que les notes sont placées après les lettres et pas en bas de page, ce qui fait que l'OCR eh bien, mélange un petit peu toutes les notes et qu'il faut les replacer au bon endroit, en fait. Donc, ce qui veut dire que ça nous demande vraiment un gros travail de relecture, mais comme on a une équipe Zola qui est nombreuse et dynamique, eh bien, nous avons chacun pris en charge un volume, donc on est 11 pour faire les 11 volumes. Un second problème était la gestion des renvois internes au corpus, parce que dans les notes, il y a beaucoup de notes du type « voir lettre numéro 5 dans le volume 3 ». Et comment rendre ça numériquement ? Eh bien, nous avons un inventaire de ces 4700 lettres. Chaque lettre, finalement, a un identifiant unique. Et le travail, c'est de remplacer ces notes par l'identifiant unique, de manière à faire ce renvoi par un lien hypertextuel à la note, à la lettre en question. Donc, vous voyez que c'est un travail quand même très, très minutieux, très, très long à faire, mais qui est en cours de réalisation. Donc, la plateforme est déjà créée, en fait, hein, puisque donc, sur le modèle des lettres à Van Gogh, avec, quand on la possède, l'image de la lettre, la transcription de la lettre au milieu, les notes dans une colonne de droite, et avec aussi les notes, donc là, je ne sais pas connecter, qui apparaissent en infobulle. On considère que les notes scientifiques sont de très grande qualité, mais parfois elles sont un peu anciennes. Donc, on a mis en place un jeu de notes secondaires, qui sont écrites par nous aujourd'hui, en fait, si on juge qu'on peut apporter une précision hein, par rapport à un savoir qu'on a acquis depuis cette édition, ou qu'une référence bibliographique plus récente, hein, bien sûr, vient apporter un éclairage nouveau sur la lettre. Donc on a vraiment un système d'annotation d'origine et un système d'annotation actuel. Tout ça pour finalement vous montrer que eh bien, ces éditions numériques de correspondance active et passive de Zola font partie d'un beaucoup plus vaste réseau qu'on a appelé le réseau numérique des naturalismes du monde, hein, où finalement l'idée c'est d'essayer de faire correspondre, dans l'autre sens du terme, eh bien, tous les projets numériques autour de Zola, du naturalisme, du vérisme italien. J'ai oublié de mettre dans ce tableau la correspondance de Giovanni Verga, par exemple, qui était un proche de Zola. Hein. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir une cartographie, finalement, de tous les projets numériques autour de Zola, du naturalisme, du vérisme, dans le monde entier. Et enfin, je terminerai finalement par ce qui nous motive à faire ce type d'édition, qui parfois est un peu rébarbatif, notamment dans le traitement technique ou la relecture. Et je reprends cette citation de l'éditeur de la correspondance de Rousseau, qui disait « Il importe avant tout de mettre entre les mains des chercheurs de bonne foi un instrument de travail aussi complet, aussi sérieux que possible. C'est ce que nous essayons de faire, mais nous sommes aussi bien encouragés par Zola lui-même, qui nous rappelle, mais qu'on ne s'endorme pas, bien à vous, Émile Zola. » Voilà, je vous remercie.